Les mains dans la pop.
Ok.
Les mains dans la pop.
C'est les mains ?
C'est ma nouvelle obsession.
Mais dans la pop.
Bonjour, bonjour tout le monde et bienvenue dans Les Mains dans la Pop. Moi c'est Audrey et je suis accompagnée de l'iconique Koumbis. Bon alors on est un petit peu triste parce que aujourd'hui c'est le dernier épisode des Mains dans la Pop ever. C'est la dernière fois que vous allez nous entendre, en tout cas ici. Comment tu te sens Koumbis ?
Ben, un peu triste du coup de perdre tous mes précieux auditeurs, mais ça va très bien. Il fait froid, mais là je suis à Bruxelles, bien entourée. Et toi, tu vas bien ?
Oui, alors pour info, Koumbis est en duplex de Bruxelles et moi je suis à Paris. Et oui, ça va plutôt bien, ça va beaucoup mieux et un peu triste aussi de quitter nos auditoristes. Mais on va essayer de vous concocter un beau dernier épisode. Donc dans cet épisode, on va parler de Depardieu, bon ça commence mal, de l'élection Miss France, d'Émilie Ratajkowski, de rupture amoureuse et de plein d'autres choses. C'est parti.
Win ou lose, oui. Telle est la question.
Quel loser ?
C'est ma nouvelle.
Elle, je l'aime trop. Icône.
Le gagnant ou le perdant de la semaine.
Roulement de tambour.
Bon allez, Koumbis, peut-être une bonne nouvelle pour commencer cette chronique de winner-loser ?
Mais en fait, c'est pas vraiment une bonne nouvelle, mais il y a de l'espoir. Donc moi, en fait, j'ai une winneuse et une loseuse dans la même histoire, ce qui arrive très souvent dans la vraie vie.
Ouais.
Dans cette histoire, ma loseuse, c'est M. Rata, de son vrai nom, Émilie Ratajkowski. La popularité du mannequin a explosé après le clip Blur Line, tu te souviens ? Avec Robin Thicke,
ouais, très
Pharrell Williams, T.I. Et donc dedans, en fait, elle est avec deux autres mannequins. Elles sont quasiment nues, en juste en string de couleur chair. Et du coup, ça avait explosé sur les réseaux. Tout le monde était scandalisé. Mais la plastique d'M. Rata et son déhanché ont déchaîné les foules et surtout les avis positifs parce qu'elle est devenue une superstar du jour au lendemain. Mais elle a vite démontré qu'elle n'était pas qu'une jolie personne. Et elle s'est engagée dans différentes causes féministes et notamment le body positive. Elle en a même écrit un livre. Et c'est pour ça, du coup, que son récent shooting pour le magazine M, je sais pas si tu l'avais vu, moi je l'avais pas vu personnellement.
Non, je l'ai pas vu du tout.
Je l'avais pas vu passer. Il a surpris beaucoup de gens parce que elle est, et a énervé beaucoup de gens aussi. Parce que dans une des photos, elle pose, en fait, dans une seule jambe du pantalon. Et beaucoup de gens ont trouvé à raison que c'était très grossophobe, bizarre et complètement déplacé. Et du coup, les gens ont dit, mais frère, tu nous fais tous les jours des discours sur le fait d'être une femme libre, de pas se, genre toi, de pas succomber au dictat de la beauté, de la minceur, et tu nous fais un truc comme ça. Et du coup, c'est le cas du mannequin grande taille Tabria Majors qui a fait une réponse à la photo grossophobe. Elle a fait un shoot, en fait, où elle pose avec une paire de jeans à chaque jambe. Et avec ça, elle a écrit un texte assez long que je vais vous lire parce que c'est très important. Elle a dit « Je vais juste commencer à porter une seule paire de jeans sur les deux jambes, coudre plusieurs petites jupes ensemble pour s'adapter à ma taille extra large, attacher une paire de petits suites autour de ma poitrine pour que vous sachiez tous ce que ça fait de ne pas pouvoir trouver quelque chose à se mettre. Il y a tellement de problèmes plus importants en ce moment, mais cela m'a vraiment dérangée. Personne n'a trouvé ça bizarre au Monde Magazine. M. Rata, est-ce que tu as trouvé ça bizarre ? C'est ça qu'elle veut dire. Comment as-tu pu écrire un livre sur la positivité corporelle et penser que c'était OK ? Je suis mannequin depuis près de 10 ans maintenant et l'invisibilisation des mannequins grande taille est toujours aussi fou à expérimenter en temps réel. Nous avons commencé avec les modèles plus size qui se sont transformés en modèles curvy et pour faire un peu plus mignon, bien sûr. Et maintenant, ce sont les mannequins de taille moyenne qui prennent la place des mannequins plus size. Ce photoshoot montre qu'ils peuvent fabriquer et vendre des vêtements grande taille, mais jamais photographier un mannequin grande taille. Je sais que l'Ozempic, je sais pas si on a entendu parler, en fait, ouais. C'est un truc pour les diabétiques qui a exposé sur TikTok parce que les gens ont su que ça faisait maigrir, donc tout le monde a commencé à en prendre et il y a une pénurie mondiale. Donc elle a dit, je sais que l'Ozempic est partout dans l'industrie, mais le shooting fait penser à Jenny Craig, c'est une entrepreneuse très connue dans le monde du régime en Amérique, et à Weight Watcher. Donc elle dit quel est le concept et nous aussi on se demande parce qu'en fait, encore une fois, c'est pas parce qu'on est attaché à une cause qu'on est à l'abri de la faute. J'ai pas vu de réponse ou d'excuse d'M. Rata, mais je voulais juste dire encore une fois merci aux femmes noires de faire le taf, d'être là et de reprendre les gens quand il faut les reprendre.
Trop bien, bah merci pour tout. C'est vrai que j'avais vu passer la photo, j'ai pas compris quoi. Enfin, c'est vraiment.
Enfin, ouais, ça va être très genre en mode année 2000 quand tout le monde voulait pas être un peu gros quoi.
Mm-hmm. Bon.
Et toi, t'es un loser, un winner ?
Ouais. Est-ce qu'il y a un truc un peu. Je vais pas enchaîner sur un truc plus positif, hein, sorry. Je vais enchaîner avec un loser qui est la législation anti-boycott et Starbucks de manière générale qui est en train de complètement paniquer. Alors, Kim Kardashian, qui déteste le café a été aperçu avec un grand gobelet Starbucks dans la main. Alors, c'est une info complètement nulle, mais ça cache plusieurs choses. Il faut savoir que l'action de Starbucks perd 12 milliards de dollars. Donc, c'est le 11e jour consécutif que Starbucks perd autant. C'est une baisse de chiffre qui est énorme. C'est un record pour l'entreprise. Et c'est une baisse qui a lieu en pleine période de Noël, ce qui fait fuir plein d'investisseurs. Donc, c'est vraiment mauvais signe pour Starbucks. Pourquoi ? Je ne sais pas si tu sais, toi.
Oui, parce que c'est lié à la cause palestinienne, non ?
C'est ça, exactement. En fait, il y a un boycott de la marque et de plein d'autres marques parce que Starbucks aurait financé en fait l'armée israélienne. Et ça fait partie d'un plus large mouvement qui s'appelle le mouvement BDS, boycott, désinvestissement et sanctions. Et en fait, c'est une campagne qui vise au boycott d'Israël et de toutes les marques en fait qui soutiennent l'occupation israélienne et les violations des droits des Palestiniens, palestiniennes. Et donc, par le biais en fait de boycotts économiques, culturels, universitaires, peu importe, en fait, en ne donnant pas notre argent à ces entreprises-là, c'est comme ça qu'a lieu ce genre de truc. En fait, c'est comme ça que les marques coulent et il y a que comme ça qu'ils comprennent. En fait, il y a que par l'argent pour amortir sa chute.
Faut toucher le portefeuille.
Ouais, c'est ça exactement. Et en fait, pour amortir cette grosse chute de chiffre d'affaires, l'entreprise va multiplier les offres. Donc, par exemple, on a pu voir beaucoup d'offres du genre un acheté, un offert. Et notamment, l'entreprise va payer des célébrités pour faire la promo de sa chaîne. Donc, par exemple, en l'occurrence, Kim Kardashian. Parce qu'on n'a jamais vu, en fait, une Kardashian aller chercher elle-même un café chez Starbucks. Et pourtant, là, on voit Kim en crop top qui se balade dans le Starbucks et qui brandit un gobelet. Donc, on se demande combien, en fait, elle a été payée pour faire cette espèce de coup de pub. Parce que, comme par hasard, évidemment, il y a eu des paparazzi, il y a eu plein de photos qui sont sorties de cet achat. Et moi, je me demandais aussi si elle arrive encore à se regarder dans un miroir, sachant qu'elle est elle-même à moitié arménienne et qu'Israël refuse de reconnaître le génocide qui a été commis en Arménie en 1915. Donc ça fait beaucoup de choses qui me font me demander pourquoi est-ce que Kim Kardashian ne s'est pas prononcée sur le sujet et puis pourquoi aussi elle participe à cette espèce de campagne qu'on suppose en tout cas. En tout cas, tout ça pour dire que le boycott fonctionne parce que, comme je le disais tout à l'heure, toutes les guerres, tous les génocides, les pillages de ressources, c'est quand même au cœur de tout ça, c'est l'argent. Donc c'est bien en fait d'attaquer par ce biais-là en choisissant où on met notre argent et en refusant par exemple de financer certaines entreprises. Mais figure-toi que ce sera bientôt plus possible et c'est là aussi qu'il y a un autre loser.
Oui.
C'est qu'on pourra peut-être bientôt plus boycotter les marques, surtout aux États-Unis parce qu'il y a une loi anti-boycott qui est en cours de révision. En fait, c'est la Commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants des États-Unis qui a voté en faveur d'un projet de loi qui étendrait les lois anti-boycott qui existent déjà en fait aux États-Unis.
Donc
en fait,
et comment ça a marché, genre, ils vont dire aux gens venez boire du café, genre.
Ben justement, en fait, c'est un projet de loi qui s'appelle IDO Anti-Boycott Act et il a été d'abord adopté par la Commission des affaires étrangères à vraiment presque unanimité, donc il y a eu 42 voix contre 3. Et en fait, ça a été renvoyé à la Chambre des représentants et on attend le verdict. Et donc, ce projet de loi, il s'appuie sur la loi anti-boycott qui existe déjà, comme je l'ai dit. Et en gros, ils exigent des citoyens américains, en fait, que les Américains américaines refusent de participer au boycott organisé par des gouvernements étrangers à l'encontre de pays, je cite, « amis des États-Unis ». Et ouais, moi aussi, je me demandais, mais en fait, ils vont forcer les Américains à aller prendre des lattés. Enfin, c'est...
C'est ça.
Tu vois, je vois pas trop comment ça peut s'appliquer.
Au McDonald's.
Ouais, c'est un peu chelou, donc à voir. J'ai pas regardé le détail de tout ce que cette loi implique. Mais enfin, et en gros, en fait, ils disent que c'est une mesure qui est là aussi pour lutter contre l'antisémitisme. Alors, pour rappel, être contre les génocides, les guerres et contre le sionisme, c'est pas être antisémite. Et je sais pas, on a quand même le droit de boycotter les marques qu'on veut. Donc, j'ai hâte de voir où ça nous mène, mais ça n'augure rien de bon.
En tout cas, moi, ça me fait plaisir de savoir que le boycott lancé sur les réseaux sociaux marche dans la vie réelle, en fait, et que c'est pas seulement genre toi des hashtags. Ça fait plaisir.
Oui, c'est vrai. Mais moi, je m'attendais pas en vrai à ce que ça fonctionne aussi bien parce que je mesurais pas à quel point les gens boycottaient vraiment
moi non plus.
Les entreprises.
Attends,
quoi.
Mais Starbucks, ça m'a vraiment choqué parce que je me suis dit, c'est facile. Parce que Starbucks, c'est tellement genre une enseigne emblématique et tout le monde veut poser à Noël avec son pumpkin latte et tout ça. Donc, je suis vraiment contente.
Mm-hmm. Ouais, on espère que les gens pourront toujours avoir cette liberté, en tout cas, de boycotter ou pas des marques et qu'il n'y aura pas des lois pour les en empêcher. Donc, j'enchaîne avec un winner qui n'en est pas vraiment un, j'ai parlé de Macron et de Depardieu. Alors, pendant que Macron fait les éloges de Depardieu, je sais pas si t'as vu la vidéo.
Oui, j'ai vu. On en a fait un sujet sur Combini.
Okay.
Et franchement, j'ai l'impression que en fait, tous les jours, ce gouvernement se réveille en disant qu'est-ce que je peux faire pour énerver un peu plus les Français. Et tous les jours, ils trouvent un truc. Quoi.
Oui, la loi immigration. Vraiment, à chaque jour, c'est la bonne nouvelle. Et donc, pendant que Macron, vraiment jette des fleurs à Depardieu, qui est accusé de viol et d'agression sexuelle, France Télévisions a supprimé de sa programmation les films de Depardieu. Mais je vais vous expliquer qu'il faut pas se réjouir trop vite et que c'est pas si simple que ça. Alors, En gros, il y a deux salles, deux ambiances. D'un côté, tu as Macron dans C'est à vous sur France 5 le 20 décembre dernier, qui a vraiment salué, je cite, un immense acteur dont il est apparemment grand admirateur. Il parle de chasse à l'homme et il qualifie Depardieu d'acteur qui rend fière la France et il refuse de lui retirer la Légion d'honneur. Et puis de l'autre, il y a le groupe France Télévisions qui avait annoncé qu'il ne diffuserait plus de films de l'acteur. Alors, pour rappel, le grand acteur en question, selon Macron, a sexualiser une enfant, on a vu dans un reportage de complément d'enquête qui a été diffusé il n'y a pas très longtemps. Il a proféré des insultes sexistes aussi. En tout cas, ça en plus, c'est ce qui a été filmé. On ne sait même pas ce qui se passe hors des caméras.
Mais c'est vraiment ça. Et surtout, je ne sais pas si tu as vu, mais je pense que tu as vu qu'une des femmes qui avait porté plainte pour viol contre Gérard Depardieu s'est suicidée en se jetant dans la Seine.
Exactement, j'allais. Ouais,
c'est vraiment indélicat et vraiment salopard de la part de Macron de se prononcer sur ça, en fait.
C'est clair. Pour rappel aussi, Depardieu, il visé par des plaintes pour viol de la journaliste et écrivaine Ruth Baza et de la comédienne Charlotte Arnoux. Et il est aussi visé par une plainte pour agression sexuelle déposée par la comédienne Hélène Darras. Et comme tu viens de le dire, il y a Emmanuel Debévert qui se serait jeté dans la Seine le jour de la sortie du complément d'enquête, donc l'enquête dont je parlais tout à l'heure. Et c'est une comédienne en fait qui avait dénoncé les agissements de Depardieu dès 2019 et en fait personne l'écoutait.
Parce que je pense qu'ils ont vraiment un problème avec les acteurs qu'ils aiment bien en France.
On pourrait se réjouir que France Télévisions boycotte Depardieu, puisque à juste titre quand même, ça, c'est pas un personnage très aimable. Mais en fait, la chaîne a démenti ce boycott. En gros, il y a le directeur du pôle cinéma de France Télévisions qui s'appelle Manuel Alduit, qui a confié à France Inter, il n'y a pas de boycott, on ne censure pas les œuvres. Parfois, il faudra peut-être les contextualiser. Je parle en général, au-delà du cas de Depardieu. En revanche, on s'abstient de célébrer les participants à ses œuvres qui sont pris dans des accusations collectives. Et en gros, tout ça, ça serait parti d'une surinterprétation des propos de ce même directeur qui avait dit dans le complément d'enquête du 7 décembre dernier, je cite, « La mise en accusation collective par une quinzaine de femmes a eu comme conséquence immédiate pour nous de revoir complètement nos plans de diffusion. Il ne faut pas qu'on célèbre Gérard Depardieu. Ce n'est juste pas possible. C'est la première chose pour nous. La deuxième, c'est qu'on a mis en pause les éventuels projets qu'on nous soumettrait avec Gérard Depardieu. » Donc en fait, il avait dit ça et les gens ont interprété ça en mode « Bon, France Télévisions va boycotter », sauf que c'est pas vraiment le cas.
Quand on lit là, c'est logique qu'on comprenne ça, en fait.
Bah ouais, j'ai l'impression qu'il a plutôt rétro-pédalé qu'autre chose.
Ouais.
Voilà.
Le sujet de la semaine.
On va parler de quoi cette semaine?
Vous avez des idées?
Ultra cringe.
On peut dire que c'est vraiment nul ou pas?
Elle a osé.
Alors personnellement, j'avais complètement oublié l'existence de ce concours, mais le 16 décembre dernier, c'était la 94e, élection de Miss France 2024. Je sais pas si t'as regardé, toi?
Non, j'ai pas regardé. Je fêtais mon anniversaire dans un restaurant italien.
Oh, joyeux anniversaire en retard.
Merci.
Mille excuses, Queen Kumbis. Mais en tout cas, moi non plus, j'étais pas devant mon écran. Et l'émission, apparemment, a été présentée encore une fois par Jean-Pierre Foucault, quelle surprise, pour la 29e année consécutive, et aussi par Cindy Fabre, qui est une ancienne Miss France. Alors, rien ne change depuis la première édition. Les Miss sont toujours aussi grandes, aussi minces. Elles veulent toute la paix dans le monde. Et puis, elles sont jugées selon des critères complètement archaïques. Mais c'était la première depuis le départ de Sylvie Tellier du poste de directrice générale de la société Miss France. Et aussi depuis la mort de la fameuse Geneviève de Fontenay, qui était quand même figure de proue du comité Miss France de 1981 à 2007. Et la gagnante, du coup, c'est Miss Nord-Pas-de-Calais, Eve Gilles, elle s'appelle, et puis la première dauphine s'appelle Audrey Owensai, qui est Miss Guyane. Alors, on s'est dit que c'était l'occasion de revenir un petit peu sur toutes les polémiques de cette élection, enfin de ce concours. Il y en a toujours. Un peu comme si c'était un concours sexiste, quoi. Mais aussi, on va revenir sur l'histoire de cette émission. Peut-être, Kumbi, si tu veux justement fouiller un petit peu dans ce côté-là, ce côté de l'histoire, en fait, des élections, de manière générale, des élections et des concours de beauté.
Mais oui, parce que comme on l'a dit que vous regardiez un nom Miss France, tout le monde en a déjà entendu parler et j'espère que vous connaissez pas d'où ça vient parce que je vais vous l'expliquer. Comme l'American Pie, la culture des concours de Miss nous vient des États-Unis. Donc, mais en tout cas, mettre en compétition des femmes et comparer leur physique semble être un concept vieux comme le monde. Selon le site Géo, ça remonte à loin, 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 puisque dans le mythe antique du jugement de Paris, ce sont les déesses Athéna et Héra et Aphrodite qui sont affrontés pour un titre de beauté. Du coup, c'est le prince troyen Paris qui va les départager en leur remettant une pomme d'or. Et c'est là d'où vient l'expression la pomme de la discorde. Est-ce que tu le savais déjà?
Alors, pas du tout, j'apprends beaucoup de choses.
Moi non plus.
Ok, trop bien.
Et bien sûr, c'est Aphrodite, la déesse de l'amour, du désir, de la beauté, qui remporte le prix. Du coup, on peut dire un peu que Miss Aphrodite est la première Miss Univers de l'histoire. Et selon le New Yorker, le premier concours de Miss Amérique a eu lieu en 1921 à Atlantic City, donc c'est dans le New Jersey. Il a été inspiré par une parade de bébés très célèbre en Amérique. Et donc, en fait, des jeunes femmes de New York, du New Jersey, de Pennsylvanie et de Washington participaient à un festival de 2 jours. Et bien sûr, à l'époque, l'Amérique était en pleine ségrégation raciale, donc le concours était interdit aux femmes noires. Mais les participantes étaient accompagnées par des Afro-Américains déguisés en esclaves, donc pour vous dire à quel point le racisme est ancré depuis le début dans ce genre de concours. Et dans les années 30, en fait, le concours devient un peu plus chic et commence à attirer les femmes de la classe moyenne. C'est dans ces années-là qu'on a commencé à faire des concours de talent, de cérémonies de couronnement et de donner des cadeaux comme des bourses d'études, tout ça. Et en France, chez nous, donc chez vous, parce que moi je suis belge, mais bon. En France, dans les années 20, c'est Maurice de Wallefeu, un directeur de journal, lance le concours de la plus belle femme de France et la première lauréate est Agnès Souret. Mais c'est après la Seconde Guerre mondiale que le concours prend de l'ampleur et avec l'arrivée de la télévision dans les domiciles, le concours se focalise un peu plus sur les belles formes, comme le disent les commentateurs, et sur la plastique des participantes. Et de 1987 à 2007, comme disait Audrey, il est présidé par Geneviève de Fontenay, connue pour sa vision très, très, très traditionnelle de la femme. Et n'ayons pas peur de le dire, de Fontenay n'est pas la femme la plus progressiste de France, ni même d'Europe. Et en fait, oui, ok, d'accord, les gens l'aimaient bien parce qu'elle était elle avait un très franc-parler et elle soutenait ouvertement la lutte ouvrière, les gilets jaunes, tout ça. Mais elle soutenait aussi ouvertement la manif pour tous et était contre, du coup, le mariage gay. Et tout comme, du coup, Geneviève de Fontenay, le concours de Miss France n'est pas étranger aux polémiques, à la grossophobie, au racisme, au jeunisme, au sexisme. Veux-tu en parler un peu plus, Audrey? Parce que je pense que, oui, bien sûr, toi, tu détestes le concours.
Ah
moi,
bon,
j'aime trop juger les gens,
ça,
donc
ça
j'aime bien,
senti.
Mais je trouve, bien sûr, c'est très problématique, mais moi, j'aime bien parce qu'en fait, je me le dis, ça peut être une occasion à certaines femmes de découvrir le monde.
Moi, je trouve que déjà, ça partait mal parce que le principe même de l'émission, en fait, est problématique pour moi.
Ouais.
C'est quand même, le but, c'est de mettre en compétition des femmes, de comparer leur physique, de les juger. Et en plus, c'est un physique qui est soumis à plein de normes et de critères sexistes, racistes, grossophobes.
Totalement eurocentré et faussé, en fait.
C'est ça. Et en fait, c'est un peu la femme comme objet de fantasme, tiré à 4 épingles, soumise à tout un tas de règles édictées par ce concours-là. Elle s'exprime à peine, sauf pour justement déballer des banalités qui sont complètement balisées en fait par le concours. Elles n'ont pas trop le droit en fait d'avoir des opinions politiques tranchées. C'est un peu ce qu'on appelle les opinions de Miss France, donc c'est-à-dire des opinions neutres, lisses, complaisantes. Enfin, elle parle pas d'injustice sociale par exemple. Et puis je trouve que c'est quand même ce concours, la méritocratie par la beauté et qui passe en plus par des récompenses avec des cadeaux hyper clichés, genre elle gagne des voitures, des bijoux, du maquillage, enfin c'est super cliché quoi, de ce qu'on attend, on se dit que voilà, c'est ce que les femmes veulent gagner, c'est tout ce qui les intéresse quoi, donc pour moi il y a vraiment plus progressiste que ce concours-là, à commencer justement par les critères pour participer au concours. En fait, il faut faire plus d'1,70 m, avant en tout cas il fallait avoir entre 18 et 24 ans, j'ai l'impression que c'est un peu les mêmes critères que ce que Leonardo DiCaprio a pour ses copines.
Tellement.
Et faut pas avoir participé à des séances de photos dénudées. On se souvient bien de tous les scandales. Par exemple, celui de Valérie Beg. Ses photos nues, en fait, avaient été dévoilées. Valérie Beg, qui avait été élue Miss France 2008. Et en fait, il y avait des photos qui avaient été prises 3 ans avant sa consécration, qui avaient provoqué vraiment la colère de Geneviève de Fontenay, qui avait réclamé sa démission. Puis il y a d'autres critères, comme tu l'as un peu évoqué tout à l'heure. Avant, il fallait pas être marié, fallait pas non plus avoir d'enfants, pas être en couple, faut pas avoir fait de la chirurgie esthétique, pas avoir de piercing ou de tatouage. Donc vraiment, c'est voilà, il y a plus ouvert quoi comme concours. Donc en gros, il faut être jeune, faut être prude, enfin prude sauf quand il s'agit de défiler en maillot pour être jugé pour son corps. Faut être célibataire, donc disponible pour les hommes. Enfin, c'est tout un tas de critères hyper sexistes, grossophobes, tout ce que tu veux.
Ça me fait un peu penser au groupe de K-pop féminin. En fait, elles doivent être vraiment disponibles. En fait, elles doivent vraiment pas montrer, même quand c'est en couple, pour pouvoir toujours être désirables pour le public, en fait. C'est vraiment dingue.
C'est ça, bah, c'est vraiment être un produit, quoi. Et d'ailleurs, pour en revenir au scandale des photos dénudées, Geneviève de Fontenay a quitté Miss France en 2010 suite à une affaire comme ça. Donc, c'est l'affaire de Kelly Botchenko, qui était Miss Paris et qui a été destituée de son titre à cause, justement, de photos à caractère pornographique qui avaient été dévoilées et qui avaient été faites dans un contexte privé et publié sans son consentement. Donc, pour te dire que ce genre de scandale, il y en a plein. Et puis, en 2020, il y avait une autre polémique, celle d'Anaëlle Gyumbi, qui a été disqualifiée du concours de Miss Guadeloupe parce qu'elle avait posé seins nus pour la bonne cause dans le cadre d'une campagne pour la lutte contre le cancer du sein pendant Octobre Rose.
Mais c'est vraiment dingue.
Voilà, donc en gros, le contrôle du corps de la femme à fond. La femme ne peut exister que sous des règles précises. Alors, elle peut être nue, oui, mais que si c'est pour qu'on se fasse de l'argent sur son dos dans un concours sexiste. Sinon, ça veut dire que t'es une fille de mauvaise foi, il faut te destituer et te harceler, quoi. Et d'ailleurs, en octobre 2021, il y a l'association Oser le féminisme, qui selon moi n'est pas la mieux placée des assos féministes pour se prononcer, mais bon, qui a saisi les prud'hommes contre l'émission pour sexisme, non-respect du code du travail et discrimination. Et en fait, l'association s'est appuyée sur une jurisprudence de 2013 qui interdit les discriminations liées à l'âge et à l'apparence physique. C'est vrai que là, du coup, le concours est un peu mal barré, parce que c'est un peu sur ça que ça repose, quoi.
Mais totalement sur ça, d'abord.
Ouais, ouais, ouais. Et évidemment, le racisme n'est pas épargné hein, dans le concours Miss France. Même s'il n'y a pas que des Miss blanches, la majorité le sont, ou quand elles sont racisées, elles sont light skin. Enfin, tu l'as remarqué aussi, je pense.
Ouais.
Il y a très peu de femmes noires.
Et même quand elles sont noires très claires, elles subissent un harcèlement sur les réseaux sociaux, c'est horrible.
Exactement. Justement, et j'allais dire, quand une Miss noire a le malheur d'être élue, ouais, elle est harcelée. Enfin, en 2000, par exemple, il y avait Sonia Roland qui avait été élue. Elle était vraiment la cible d'insultes racistes. Par exemple, il y avait des gens qui avaient gravé sur sa voiture, la voiture qu'elle avait gagnée avec le concours d'ailleurs, Rentre chez toi. Puis, même chanson pour Flora Coquerel qui a été élue en 2014 et qui avait reçu carrément des menaces de mort. Et puis, en dehors de vraiment ces attaques frontales, il y avait aussi du racisme ordinaire qui était subi par les candidates racisées. D'ailleurs, moi, ce qui m'étonne pas du tout, c'est que le comité Miss France réagit pas vraiment à toutes ces attaques. En fait, il se contente de conseiller aux candidates de ne pas lire ou carrément de désactiver les commentaires. Donc, en gros, fermer les yeux, quoi, il y a rien qui se passe. Et apparemment, on les entraîne, en fait, les Miss, à sortir des espèces de punchlines, ou en tout cas à s'adapter avec des entourloupes pour répondre, je cite, avec des pincettes et avec le sourire. Donc, il y a mieux comme soutien, tu vois, aux Miss quand elles subissent du racisme à cause, en partie, enfin, pas à cause, mais parce qu'elles sont rendues plus visibles par le concours.
Ouais.
Et il y a plein aussi de Miss Noires qui ont dénoncé le racisme. Par exemple, il n'y a pas de produits adaptés à leur type de cheveux, pas de fond de teint adapté à leur teinte de peau. Pendant le concours, elles se retrouvent souvent avec les cheveux ultra lissés, carrément cramés parce qu'on ne sait pas s'en occuper. Ou le visage avec une teinte un peu grisâtre.
Genre c'est ça. À la Ramayade avant.
Ouais. C'est ça. En fait, il n'y a rien qui est fait pour s'adapter, alors que, enfin, je sais pas, il y a des Miss Noires, donc je sais pas, adapte-toi, va acheter un fond de teint chez Fenty, j'en sais rien.
C'est ça, mais surtout que, tu sais, le manque de teinte dans les concours de beauté ou même dans la mode, les femmes en parlent depuis les années 80, je veux dire en 2023, ça devrait plus se poser, en fait.
Mais en même temps, c'est tellement, pour moi, ce concours est tellement archaïque que ça m'étonne même pas qu'il se soit pas posé la question et qu'il se soit pas dit, tiens, ce serait bien d'avoir plusieurs coiffeuses ou coiffeurs qui puissent s'occuper, en fait, des cheveux cheveux crépus ou des cheveux bouclés ou juste des gens formés en fait pour maquiller tout type de peau, tout petite. Enfin voilà, ça me paraît assez logique, mais apparemment non. Et d'ailleurs, il y avait Miss Aquitaine en 2021, ils avaient lissé son afro et ça avait fait vraiment une polémique.
Un scandale, je me souviens. Ouais.
Ouais. Et en fait, elle expliquait qu'il y avait une seule coiffeuse pour toutes les Miss qui pouvait s'occuper des cheveux crépus ou des cheveux texturés. Donc ça explique cela. Je sais pas si tu t'avais vu un peu toute cette polémique autour de ses cheveux.
Oui, j'avais vu cette polémique et surtout qu'en fait, parce que les gens la voyaient sur ses photos promo avec sa belle afro et tout le monde s'attendait à ce qu'elle soit comme ça le jour du concours. Après, on l'a vu avec des cheveux lissés. Et encore une fois, nous, nos cheveux afro ne doivent pas être lissés ni même traités comme un cheveu lisse. Donc, même son cheveu lissé n'était pas bien lissé. Donc, ça a énervé tout le monde.
Mmh, ouais.
Ils ont dit, au lieu de faire appel à une coiffeuse afro, ou même une coiffeuse qui connaît les cheveux afro, ou même leur laisser eux-mêmes s'occuper de leurs cheveux.
Mmh.
Voilà, je comprends pas.
Ouais, je me souviens. Ils ont essayé un petit peu de moderniser le concours. Depuis 2022, il y a Endemol et sa patronne Alexia Laroche-Joubert, qui ont essayé de changer un petit peu les choses, notamment en autorisant les femmes mariées, les mères, les femmes de plus de 24 ans, les tatouages et les piercings, et aussi en autorisant aux femmes trans de concourir. Bon, j'ai envie de te dire quand même, il était temps, enfin 2022...
Franchement.
Il était temps, quoi.
Merci.
D'autoriser les femmes mariées. Enfin, la barre est très basse. En tout cas, même si toutes ces personnes sont autorisées à concourir, par exemple, il n'y a toujours pas eu de femmes trans dans le concours. En 2022, il y a Andrea Furet, qui était la première candidate transgenre pour l'élection de Miss Île-de-France, et elle n'a pas gagné. Donc, bon, on autorise, mais en même temps, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne se sentent pas concernés par ce concours. Et puis, quand on voit toutes les polémiques sexistes, racistes, etc., autour du concours, ça donne pas franchement envie non plus de se visibiliser là-dedans, quoi. Enfin, je sais pas ce que t'en penses.
Non, mais moi, je comprends. Hein, et même moi, si maintenant une de mes proches voudrait y aller, j'aurais dit, est-ce que tu veux vraiment t'exposer à ça, parce que comme tu as dit, les femmes qui sont victimes d'harcèlement ou même de racisme sur les réseaux sociaux ne sont même pas protégées ou même soutenues par le communauté. Donc
c'est ça.
En soi. Et aussi, franchement, combien de Miss a vraiment éclaté, genre explosé après le concours, tu vois? J'ai l'impression que c'est vraiment, comme on dit, c'est vraiment un concours et une culture très américaine. J'ai l'impression qu'en France, ça veut même pas quoi faire de leur Miss, à part devenir chroniqueuse à TPMP et peut-être Miss Météo, c'est quand t'as vraiment de chance.
C'est vraiment ça.
Tu peux faire
t'as
après.
Tout résumé. Ouais. et ouais, cette année, ils ont essayé de moderniser, alors vraiment jury, la chose un petit peu avec un jury entièrement féminin. Donc, il y avait Adriana Carambeu, Stéphie Selma, Nolwenn Leroy, Nina Métayer, Estelle Mosseli et Elodie Pou. Mais pour moi, ça retire pas le caractère purement sexiste du concours, en fait. Enfin, mettre que des meufs pour juger des meufs, c'est pas suffisant pour transformer le concours en une émission féministe. La preuve, la nouvelle Miss a été harcelée. Enfin, je sais pas si t'as vu du coup.
Oui, parce qu'elle a des cheveux courts.
Exactement, en fait, elle a été
harcelée. Mais je comprends pas dans quel monde on vit. Elle a vraiment la coiffure de la plupart des mamans et des tatas noires qu'on voit partout dans le métro. Et les gens étaient choqués parce qu'elle avait des cheveux courts, en fait. Moi, je me dis, attends, mais j'ai deux perruques comme ça, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? C'est tellement banal, je me dis, mais les gens sont vraiment dérangés.
Bah justement, j'ai un peu fouillé aussi, parce que je me suis dit, mais c'est quoi le problème ? Et donc, cette nouvelle Miss, donc, qui s'appelle Eve Gilles, a été harcelée, donc je cite, pour manque de poitrine et cheveux courts. Waouh ! Mettez-la en prison. Et donc, j'ai un petit peu fouillé les réseaux sociaux, et il y a beaucoup d'insultes qui reviennent. Miss planche à pain, c'est du wokisme, c'est un homme, elle n'a aucune forme féminine. Donc franchement, j'aurais pas pensé comme toi qu'une coupe courte susciterait autant de haine. Et en fait, suite à la diffusion de photos en maillot de bain, il y a eu encore plus une vague de body shaming, parce qu'en fait, les gens la jugent trop mince et pas qu'elle n'a pas assez de poitrine, en fait. Et donc, il y a des commentaires, notamment sous les posts, qui le dénoncent et où la Miss, en fait, exprime le fait que elle n'a pas choisi, en fait, son corps. Et donc, j'ai lu un petit peu les commentaires. Je vous en fais part. Tu fais un concours où on juge ton physique et tu viens dire que c'est honteux qu'on juge ton physique, point d'interrogation. Fais du sport et sois en surplus calorique, tu choisis ton corps. Et puis il y a d'autres personnes en fait qui voient dans cette vague de harcèlement une réaction féministe. Il y en a qui disent c'est parce que ça fait des années que des gens se battent pour inclure des corps normaux qui sortent du diktat classique de la mannequin filiforme. Donc en 2023, ça choque de voir une Miss France qui a un corps d'ado de 13 ans et les cheveux courts. Alors pour moi,
mais
c'est...
Mais elle a un corps normal déjà. Enfin,
mais
tous les corps sont normaux, c'est ça qui m'énerve,
c'est
en fait.
Ça.
Tu vois ce que je veux dire ?
Et puis surtout pour moi, c'est donner beaucoup, beaucoup de crédit à une vague de violence complètement gratuite. Et aussi, c'est penser que parce qu'on veut que tous les corps soient visibles et plus libres, ça veut dire qu'il faut aussi éradiquer en fait tous ceux qui répondent encore à certaines normes et selon quels critères. Enfin, c'est complètement débile.
Et c'est ça. Et quand ils disent les corps normaux, comme elle a dit au début, le mannequin grande taille, ils disent aussi c'est grande taille mais très accepté, tu vois. Il faut quand même avoir le ventre assez plat, faut quand même avoir le corps en 8, tu vois. Donc en fait, c'est tous des hypocrites. Si maintenant elle a été mince avec des gros seins, on aurait dit elle est vulgaire, tu vois.
Oui.
Moi, je pense qu'une femme n'est jamais assez bien.
C'est ça.
Et c'est en ça que ça me dérange de concours, parce qu'on sait que même si elle correspond genre aux critères parfaits dits par Da Vinci ou je sais pas quoi, on l'aurait quand même critiqué. Parce qu'en fait, on aime critiquer la femme, et je pense que c'est notre société qui pense que la femme est critiquable, en fait, tu vois. Parce qu'elle est là pour être désirable et pour être jugée et par les hommes, et je pense qu'ils ont leur mot à dire. Ils pensent avoir leur mot à dire, mais non, en fait.
Mmh.
Donc voilà, ça m'énerve. Juste ça, dans ça, je rejoins, et je trouve que dans ça, le truc est mal fait, parce que s'il y a Miss France, il devrait avoir Mister France. Et il y a Mister France, mais c'est un truc série Z que personne ne regarde, donc ça compte pas.
Bah, pour moi, au-delà du fait qu'il faut, par exemple, un concours pour les mecs, c'est juste le concours en lui-même, moi, qui me gêne. C'est juste déjà les critères, comme on dit depuis tout à l'heure. Enfin, même quand on parle de corps normaux, entre guillemets, comme ce que disent les commentaires, c'est toujours des corps minces, des corps musclés, des corps grands, des corps valides, des corps blancs. Enfin, tu vois, c'est toujours la même chose. Donc, au-delà de juste créer un concours, Mister France, tu vois, juste, est-ce qu'on peut pas faire autre chose, genre que juste juger sur la beauté? Ça me paraît hyper vieux jeu, quoi. Et pour en revenir aux commentaires là qui disaient oui, c'est parce que on veut des corps qui sortent un petit peu de ce qu'on a vu, et c'est pour ça que les gens réagissent comme ça. Enfin, pour moi, si les harceleurs se battaient vraiment pour que les misses soient plus grosses et sortent des normes, ça se saurait, tu vois. Et comme tu disais, les femmes ne gagnent jamais. Quand elles sont trop grosses, selon des critères grossophobes, elles ne sont pas dignes d'être élues misses ou d'être visibles. Et quand elles sont trop minces, elles ne sont apparemment pas assez féminines. Donc en fait, c'est vraiment ce concours, pour moi, une imagerie sexiste. Ça prône un idéal de beauté qui est vraiment excluant, quoi. Et en gros, il y a eu beaucoup aussi d'insultes lesbophobes et transphobes pour cette nouvelle Miss France. En gros, les gens disent qu'elle ressemblerait, je cite, à une lesbienne ou à une personne trans. Alors, déjà, toutes les personnes lesbiennes et trans ne se ressemblent pas, et il n'y a pas de look lesbien ou trans. Et en fait, ça traduit beaucoup de choses. Ça traduit que quand une femme ne correspond pas aux stéréotypes de genre féminin et aux fantasmes masculins, y a du harcèlement, il y a de la violence, il y a des insultes lesbophobes et transphobes. Et je suis quelqu'un sur TikTok qui s'appelle, donc son pseudo c'est Lodoniri, et en fait il explique que les hommes qui insultent la Miss la comparer à une image générée par une IA en disant que c'est à ça que devrait ressembler une vraie femme. Donc, en gros, il compare une fausse image d'une fausse femme qui n'existe pas à une vraie femme qui existe pour dire c'est ça une vraie femme. Donc, c'est quand même assez ironique. Et pour moi, ça montre bien que l'idéal féminin, il est complètement inatteignable, ou en tout cas seulement atteignable par des images générées par des machines, quoi.
C'est vraiment ça, parce que genre, même quand tu vois, quand je sais pas si tu vois souvent, à un moment c'était vraiment la mode de montrer l'idéal féminin, l'idéal masculin. L'idéal féminin, souvent c'était un corps totalement lambda, tu vois, d'un garçon, tu vois, d'un homme. Et les hommes, c'était vraiment genre, tu vois, des trucs gros seins, un peu de fesses, très peu de trucs, tu vois, genre un corps vraiment qui n'existait pas dans la vie de tous les jours, tu vois.
Oui, c'est ça, c'est vraiment des idéaux de beauté qui sont inatteignables, parce que comme on le disait tout à l'heure, peu importe à quoi va ressembler la prochaine Miss France, il y aura toujours des critiques. Donc, quoi qu'il arrive, on ne gagne jamais. Il y a aussi, pour conclure un petit peu, je ne sais pas si tu vois ce compte sur Instagram qui s'appelle Aldelfité France, et qui résume assez bien la chose et qui dit « Cela crée, en parlant du concours, une dynamique où la quête de la perfection physique devient une condition implicite de reconnaissance et de succès. » Et en gros, qui explique aussi que c'est voir la compétition féminine comme un outil de diversion, en fait, pour détourner l'attention des véritables enjeux. Parce que pendant qu'on regarde Miss France, donc des femmes ou des hommes, enfin là, en l'occurrence, c'était un jury de femmes qui jugent des femmes qui rentrent dans des normes pour plaire à des mecs, y a plein d'autres trucs qui se passent, quoi. C'est un peu pour nous détourner et puis jouer sur cette espèce de compétition féminine. Je sais pas ce que t'en penses, toi.
Ça me fait penser à Chimamanda Ngozi Adichie, une autrice nigériane, qui dit on apprend aux femmes à être compétitives l'une contre l'autre, mais jamais pour des raisons genre le travail, la réussite, mais souvent pour plaire aux hommes, tu vois. Et je pense que ça résume bien le concours Miss France. C'est qu'en fait, comme t'as dit, c'est qu'on met... toi, genre, si maintenant il y avait encore comme avant, souvent des concours où elles devaient avoir des talents différents, qu'on juge leurs talents. Mais là, en France, on juge que la beauté, tu vois, le déhanché, le comment elles marchent sur, en maillot de bain, tout ça. Et en soi, il n'y a pas de vrais critères de comparaison, tu vois. Si maintenant elles chantaient ou même qu'elles faisaient, je sais pas, de l'acrobatie, du twerk ou même genre ça, du breakdance, je sais pas, quelque chose, tu vois. Donc voilà, ouais. Je pense que ouais, c'est encore une fois dire qu'une femme doit voir d'abord une autre femme comme une rivale.
C'est ça. Mais ouais, je sais pas. Moi, j'ai vraiment du mal avec le concours, en fait, de la plus belle, soi-disant plus belle femme de France. Peu importe si elle chante ou elle twerk, j'ai quand même du mal. Pour moi, il est temps que ce genre de concours archaïque soit supprimé. En gros, je m'étais dit, ça serait bien, par exemple, de remplacer ça par des programmes qui mettent en valeur d'autres expériences, comme tu disais, et d'autres corps aussi. Donc, ça peut être, oui, par le talent, ça peut être des shows de drague, de voguing, montrer des personnes queer, montrer des personnes grosses, montrer des personnes non valides. Enfin, je sais pas si quelqu'un veut créer ça. On vous attend en tout cas.
Oui, voilà. Ah, mais nous, franchement, si on peut se lancer, hein, on trouve un petit producteur et on y va. Hein.
Appelez-nous.
L'amour, 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 le love.
J'ai auto-orgasmé.
Ok, d'accord.
Pour ma dernière chronique, du coup, des mains dans la pop, c'est très triste, j'aimerais vous parler d'un sujet super joyeux pour les fêtes qui s'appelle le Quiet Breakup. Non, c'est pas très joyeux, mais en tout cas, c'est très dans l'air du temps. Donc, je sais pas si vous saviez, si tu savais, Audrey, mais l'été 2023 était surnommé l'été des ruptures.
Ah ben, oui, je suis plutôt au courant, ouais.
Pourquoi ? Parce que t'as rompu en 2023 aussi ?
Alors, je n'ai pas rompu, je me suis fait larguer.
Oh là là, mais franchement, mais j'explique, c'est normal parce que Vénus était en rétrograde, mais tu n'es pas la seule. Sofia Vergara, Rosalia, Britney Spears, Billie Eilish, elles ont toutes vécu une invasion de rupture et les fadas de l'astrologie nous ont expliqué que c'était normal parce que Vénus était en rétrograde. Et franchement, moi, je suis pas trop astrologie, donc je savais pas c'était quoi. Mais une astrologue du magazine Vogue américain, qui s'appelle Alice Bell, nous explique que cette période astrologique de Vénus rétrograde peut faire ressortir des problèmes que vous avez ignorés pendant longtemps. En fait, la rétrogradation de Vénus se produit tous les 18 à 19 mois. Et donc, la dernière fois, elle s'est produite en 2021. Donc, je ne sais plus si j'étais en couple en 2021. T'étais en couple, toi ?
Oula, tu m'en demandes beaucoup. Ouais, j'ai pas trop de mémoire. Je pense pas,
Je pense que j'étais avec un fleur d'été, que oui, ça s'est fini. Et c'était sous le signe du Capricorne. Et comme le lion est un signe très dramatique, cela pourrait expliquer pourquoi ces ruptures font autant de bruit, donc, du coup, en 2023. Mais à l'inverse du coup du lion qui fait du bruit, le quiet breakup, c'est en fait un concept qui veut éviter le bruit. Et en fait, c'est se séparer en silence. Je sais pas si tu te souviens, mais dernièrement, Jada Pinkett Smith nous a appris que elle et Will Smith vivaient complètement séparés depuis 7 ans. Ça a un peu choqué les gens.
Ouais, ça m'a pas trop étonné non plus quand même.
Moi non plus, parce que je savais qu'ils étaient un couple plus ou moins libre depuis longtemps, mais le fait, genre, tu vois, quand il a frappé Chris Rock aux Oscars, il a dit laisse le nom de ma femme en dehors de ta bouche, tu vois. Donc, les gens ont cru qu'ils étaient encore ensemble, mais ils étaient séparés depuis très longtemps. Et c'est pas la seule, il y a aussi Meryl Streep qui a confirmé que elle et son ex-mari, du coup, Don Gummer, ont été divorcés pendant plus de 6 ans et personne n'était au courant. Donc en fait, le magazine The Cut nous explique que de plus en plus d'histoires de quiet breakup explosent sur Internet, en fait. Ils disent qu'il y a des témoignages qui disent qu'ils participent à des dîners de famille sans dire qu'ils sont séparés récemment, ou ils cachent leur séparation à leurs proches pendant des années. Est-ce que c'est un truc que tu pourrais faire, toi ?
Ma mère m'écoute, alors non, pas du tout.
Ok, d'accord. Et en fait, la psychologue Claudia Diaz explique qu'il y a deux types de ruptures secrètes. La première se produit quand les deux partenaires ne parlent même pas de la rupture. En fait, c'est une distance qui s'installe peu à peu. Et la deuxième catégorie, c'est une sorte d'arrangement explicite. Ils savent que ça ne marche plus sentimentalement ou amoureusement, mais ils essaient de trouver une solution pour un intérêt financier ou autre, comme la garde des enfants, tout ça. Et bien sûr, les séparations silencieuses ont toujours existé, surtout à l'époque où divorcer était tabou, voire interdit. Et il faut savoir que les origines, les valeurs sociales, la culture, la religion, l'orientation sexuelle ont un rôle important dans le quiet breakup et encore aujourd'hui. Pour d'autres personnes, le secret breakup serait quelque chose que tout le monde devrait faire pour leur bien et leur stabilité mentale. Je pense que il disait que souvent, quand on parle d'une rupture amoureuse à quelqu'un ou même à nos proches, on la vit deux fois. tu vois, parce qu'on la vit déjà nous-mêmes, parce qu'on doit se relever, mais en plus de ça, on doit l'expliquer à ses proches, on doit la vivre avec ses proches, les proches, même s'ils veulent nous aider, jugent. Donc ça veut dire en fait qu'on du coup, on doit parfois défendre notre ex qu'on veut pas défendre, qu'on doit se défendre nous, tu vois. Et donc de plus en plus de gens prônent le quiet breakup pour juste simplement vivre sa rupture loin des yeux de tous et pouvoir s'en relever calmement. Je pense que si maintenant j'ai un autre copain un jour et que c'est fini, je pense que j'en parlerai pas, tu vois, parce que j'ai l'impression que tout le monde en fait a un jugement sur la personne à qui tu es, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Et je sais pas si t'es comme ça, mais moi je suis quelqu'un qui prend beaucoup à cœur les avis de mes proches, et je sais que ça peut jouer justement sur la vision que j'ai de mon compagnon.
Ah
je
ouais. Sais pas si toi aussi. Non, bah après moi si ça dépend dans quelle posture je suis, mais si je suis au clair dans ma tête, je vais pas forcément être influencée par l'avis de mes proches. C'est surtout si je sais pas trop, que je suis dans une sorte de dilemme, oui effectivement ça peut influencer. Mais là pour les célébrités, je pense que ce qui joue aussi dans le quiet breakup, c'est bah comme tu le disais, leur image. Et par exemple quand on parle de Will Smith et de Jada, c'est surtout que bah, c'était un peu une image de couple indestructible et que du coup ça allait ternir un petit peu leur image, leur réputation, etc. Et que c'est plus bankable en fait qui reste en couple, quoi.
C'est ça. Et en plus les gens disaient que ça faisait très vieille Hollywood, tu vois, on reste ensemble parce que on est un power couple, parce
ouais,
que
voilà.
Moi j'imagine très bien Jay-Z, Beyoncé être séparés depuis 7 ans et la même dire à personne, parce que Jay-Z, Beyoncé c'est une marque déposée,
exactement,
presque, tu vois.
C'est exactement
et
ça.
Aussi, ce qui choque dans le quiet breakup, c'est qu'on est tellement dans un monde très voyeuriste où on sait tout, où on connaît la taille des enfants, de, par exemple, de Kim Kardashian. On connaît vraiment tout, et le fait que certaines personnes cachent leur séparation, en plus, c'est un peu un retour à la vie privée. Et donc, il disait que c'était la nouvelle tendance de ne pas dire qu'on est séparés et que les gens le découvrent quand ils le découvrent. Je pense que c'est une bonne chose, personnellement.
Ouais, ben, faites ce que vous voulez. J'ai envie de dire, voilà, ouais. Conclusion. C'est quoi ta reco?
Whatever.
Franchement, c'est vraiment hyper niche.
Je l'ai vu sur Twitter.
J'ai pas envie d'être méchante.
Mais j'adore. C'est l'heure de la reco culturelle. Alors, c'est la dernière, du coup, la dernière fois que vous allez m'entendre vous recommander des pièces de théâtre, des livres, des films, des séries. Enfin, en tout cas, ici. Et jusqu'à maintenant, j'ai essayé au maximum de placer, le plus possible, je vais pas mentir, mes proches talentueux, talentueuses. Et donc, pour la dernière...
T'as bien raison.
Pour la dernière, je me suis dit que j'allais finir en beauté et vous parler d'une pièce qui me tient à cœur et qui s'appelle « À nos humanités révoltées ». Et en fait, c'est une performance artistique poético-politique qui a été créée et interprétée par Marie-Julie Chalut et Marina Montmirel, d'après le recueil éponyme de la poétesse qui est mise. Donc tout ça, ce sont des gens extraordinaires. Je vous recommande d'aller les suivre sur les réseaux, dans les librairies, dans les théâtres. Et donc c'est une performance qui se base sur une dizaine des poèmes de qui est mise. Et voilà, les poèmes sont un petit peu organisés, mêlés à des créations vidéo, sonores, et donc du coup à la performance de Marie-Julie et de Marina. Alors, pour parler un petit peu des textes de qui est mise, donc du recueil de poèmes « À nos humanités révoltées » qui a inspiré cette performance, ce sont des poèmes décoloniaux, afroféministes, évidemment. Je ne sais pas si tu connais, toi, qui est mise.
Oui, je la connais sur Twitter. J'aime vraiment beaucoup son travail.
Oui, génial.
Suivez-la.
Et du coup, ce recueil de poèmes, en gros, ce qu'il dit, c'est voilà, s'emparer de nos récits en tant que personnes minorisées face à tous les systèmes d'oppression. Ça parle de colère, de lutte, aussi de sororité, de tendresse, de communauté. Et j'aime beaucoup ce recueil. Allez le lire. Et la pièce, du coup, qui a adapté ces poèmes, est super aussi. La mise en scène a été faite par les deux artistes elles-mêmes. Donc, franchement, chapeau. C'est une mise en scène très minimaliste, mais très, très bien travaillée, avec plein de jeux de lumière, des vidéos, collages, de la danse, des moments d'accalmie, des moments un petit peu plus d'exaltation. Et en tout cas, moi, c'est une pièce qui m'a fait beaucoup, beaucoup de bien, surtout quand on est une personne concernée par toutes les thématiques évoquées. Donc, c'est-à-dire, par exemple, la fétichisation raciale, le racisme ordinaire, le déracinement, le sexisme, j'en passe. Mais c'est aussi une pièce qui est accessible à tout le monde, parce que je trouve qu'elle fait ouvrir les yeux justement sur ces questions de manière poétique, accessible et engagée. Et enfin, personnellement, quand je l'ai vu, j'avais envie que ça dure beaucoup plus longtemps. J'étais vraiment tenue en haleine, j'étais traversée par plein d'émotions différentes, par la joie à travers le chant et la danse, par le rire, et aussi par beaucoup de pleurs, parce que j'étais hyper touchée par plusieurs scènes, parce qu'il y a des moments de tendresse, de soins, qui mettent vraiment du baume au cœur, et je pense qu'on en a besoin aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, et voilà.
Franchement, la fin d'année est un peu difficile pour tout le monde.
C'est ça. Et je trouve que c'est une pièce qui souligne beaucoup, beaucoup l'importance de faire communauté et de puiser, en fait, dans la force du collectif, parce que il y a plein de choses, en fait, qui nous poussent à nous isoler, et à raison, hein, c'est pas de notre faute, hein, mais c'est vrai que ça m'a donné envie, en fait, de me pencher un peu plus, davantage, même si j'étais déjà dans cette mouvance, vers le collectif, vers mes communautés. Et aussi, c'est une pièce qui pousse, je trouve, à la création, à la joie. Et on a envie, en fait, en sortant de là, de faire plein de trucs. Et je trouve que c'est hyper, hyper important qu'une pièce de théâtre nous donne envie, en fait, de passer à l'action et de faire des choses positives. Donc voilà, allez voir À nos humanités révoltées. Allez aussi lire le recueil de poèmes de Kiémis. La pièce a été jouée dans plein d'endroits différents, notamment au théâtre de l'œuvre à Marseille, au théâtre Les Roches à Montreuil, au Chicha de la Pensée, au théâtre des Amandiers à Nanterre. Donc, suivez l'actualité sur les réseaux sociaux pour voir quelle est la prochaine date. Et puis aussi, si vous êtes tourneur, tourneuse, programmateur ou programmatrice, n'hésitez pas à vous manifester, en fait, pour continuer à faire exister cette pièce, parce que ça en vaut vraiment, vraiment le détour. Voilà,
ouais,
c'est la fin. C'est la fin de cet épisode.
C'est la fin de... Est-ce que c'est là qu'on fait nos adieux ou
oui, c'est le dernier épisode ever des Mains dans la Pop. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir écoutés toute cette année. Merci à toutes les productrices qui ont travaillé à nos côtés, à toutes les équipes de Nouvelles Écoutes, des studios d'enregistrement. Je ne sais pas quoi dire, à part continuer à nous suivre, continuer à suivre nos actualités. Moi, c'est Audrey Coupé de Kermadec sur Instagram. Vous pouvez me retrouver sous le pseudo de Audrey CDK. Si vous aimez l'art, la poésie, engagée, mais pas que, voilà, suivez-moi. Je fais de la peinture, je fais des performances artistiques. J'ai une exposition en ce moment dans la galerie Sans Titre, parce que j'ai gagné cette année le prix Utopie, qui est un prix LGBT artistique. Donc vous pouvez suivre mon actualité. Je vais bientôt sortir un recueil de poèmes aussi, et puis j'écris pour différents médias. Voilà, à ton tour.
Ben moi, je m'appelle Kumbis Oploi sur les réseaux et je ne suis pas du tout engagée sur Instagram. Je fais que montrer ma vie, mon travail, mon corps. Et j'ai commencé à écrire une BD. Je serais contente. J'ai écrit une BD. Je la poste, ouais. Je la poste en story et après, je la mets en story à la une. En fait, c'est une BD qui va parler un peu de la vie de femme noire dans la trentaine, comment c'est de vivre en Europe avec une double culture, avec un gosse, avec des rêves, avec parfois des problèmes d'argent. Et c'est un peu les genres de BD que je disais quand j'étais petite, genre Julie, Claire, Cécile. Et c'est à chaque fois des situations que j'ai vécues, que des proches ont vécues, et qui sont, que je trouve très drôles et hilarantes. J'espère que vous aussi. Et à part ça, je m'occupe de la mode à Combini. Donc, vous pouvez me suivre sur Instagram. Sur Twitter, même si j'ai beaucoup de followers, je ne tweete plus parce que je trouve que Twitter est devenu super naze depuis que les masculins et les racistes ont pris un peu le lead là-bas. Donc voilà. J'essaie de faire passer du bon temps, de rigoler. Et d'ailleurs, c'est bientôt Noël, donc vous pouvez suivre toute ma nourriture et toutes mes courses de Noël que je commence dès maintenant, dès que je sors de ce studio, sur mon Instagram.
J'ai cru que t'allais balancer ton PayPal. Genre, c'est Noël, envoyez-moi de l'argent.
Oui, si vous avez besoin, j'ai besoin d'argent. Oui, j'ai besoin
d'argent. Franchement, moi, mon PayPal, c'est Audrey CDK, allez-y.
Moi, j'ai pas de PayPal. D'ailleurs, il y a plein de garçons qui me demandent est-ce que vous voulez un soumis sur Paris? Non, j'aimerais bien, mais j'ai trop peur de mal le vivre après. Mais je voulais dire merci, franchement, pour la confiance à Nouvelles Écoutes, à Marion, à Julien et à toutes les filles qui nous ont suivies depuis le début, et surtout à Audrey et Mao qui m'ont vraiment mis à l'aise, parce que moi déjà je parle hyper vite et je mange mes mots, mais je me suis tellement améliorée grâce à vous, donc merci beaucoup, et j'espère qu'on se reverra et qu'on sera riche quand on se reverra.
Ah ouais, bah merci pour cette manifestation, merci à tout le monde encore une fois. Et puis oui, c'est vrai, merci à Mao qui n'est pas présente là tout de suite, mais vous allez pouvoir la retrouver aussi sur les réseaux sociaux, suivre toute son actualité. Et d'ailleurs, Mao nous a laissé un petit mot.
Coucou les amours, c'est Mao, je vous parle de l'au-delà. Je rigole, je vous parle du studio où j'étais, l'épisode juste avant, c'était mon dernier. Et je voulais quand même vous dire au revoir, vous dire merci pour tous les messages que vous m'avez envoyés. J'ai adoré cette aventure, j'ai adoré rencontrer Audrey et Kumbis. Un grand, grand merci aux équipes de Nouvelles Écoutes. Et en vrai, à bientôt dans d'autres podcasts, à bientôt dans ma salle de spectacle pour venir voir Drama Queen, if you are a drama queen. Et surtout, aime-toi, moi je t'aime déjà. Va faire l'amour, mais protège-toi. Wow, ce mot d'au revoir devient bizarre, on dirait un repas de famille à Noël. Bisous.
Les mains dans la pop est une émission de Nouvelles Écoutes, animée par Mao Drama, Kumbis Oploui et Audrey Coupé de Kermadec, produite par Julien Neuville. Montage, mixage et enregistrement par Livio Boulanger au studio Artistique Palace et par Thibaut Jamard de Audio Fréquence pour l'enregistrement à Bruxelles. Directrice générale adjointe Nora Issem, directrice artistique Aurore Mailleux, directrice des productions Marion Gourdon, directrice commerciale Emmanuel Fortunato, chargée de production, Mathilde Jonin, assistante de production, Lila Bordelais.